qui est intervenu tout à l'heure, disant le pouvoir, l'autogestion, c'est l'égalité du pouvoir. Il faut donc détruire nos appareils, nos bureaucraties, parce que le pouvoir est accaparé par les scientifiques d'une part, par les permanents dans les syndicats d'autre part. Je dirais aussi que le pouvoir il est accaparé tous les jours par des camarades qui ont des théories et du vocabulaire, comme le camarade qui parlait d'ailleurs tout à l'heure, et qui, dans un petit groupe, aussi petit soit-il, sont les notables de la section syndicale, les notables de la lutte de quartier, ceux qui, au total, parlent toujours des conseils, formule à laquelle je crois, mais des conseils pour mieux les utiliser.
Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, par exemple, à propos des communautés. Il ne faut quand même pas oublier que c'est à travers des tas d'échecs, mais à travers ces groupes, qui essayent de vivre une vie radicalement différente de celle qui nous est imposée par le système, que se font aussi quantité de luttes sociales nouvelles importantes. Je me réfère aux problèmes écologiques, à la lutte antinucléaire, aux problèmes de consommation. Non, c'est pas ce qu'il a dit.
C'est pas ce qu'il a dit.
Ce qu'il a dit encore plus tôt, par exemple, que finalement il fallait passer du pouvoir d'une minorité à celui d'une majorité. Et là, je suis pas d'accord. Il ne s'agit plus que ce soit une majorité plus importante qui continue à opprimer d'autres minorités. Comme ça se passe et comme ça s'est toujours passé. Les femmes, les enfants, etc. Il s'agit de faire éclater les majorités, de les transformer en quantité de minorités qui auront chacune leur pouvoir. Il ne faut plus rester dans cette idée qu'il y a une unité de pensée pour se parler de pouvoir. Quand il s'agit de pouvoir, quand il s'agit d'autogestion, il s'agit de pouvoir.
Exact.
Et il y a un autre aspect aussi, c'est la remise en cause de la notion d'État, qui serait quand même question de faire à propos de l'autogestion. Ouais. Il n'y a pas de possibilité d'autogestion si on reste dans cette mentalité de pensée nationale, on raisonne sur la France. Et sur la France.
Je voudrais revenir sur le problème de l'autogestion. Tout à l'heure, Isabelle s'est étonnée. Comment ça se fait, l'autogestion, enfin, la science est complètement mal utilisée dans notre système, elle s'en étonne. Moi, je m'en étonne pas parce que la science est complètement détournée de ses véritables besoins. Et il ne peut pas y avoir d'autogestion satisfaisante en régime capitaliste. Oui, ça, il faut que ça soit clair. Attendez. Il peut y avoir des expériences autogestionnaires. Comme il paraît, le camarade, je suis entièrement d'accord, au niveau du quartier et tout ça. Ça, c'est des expériences autogestionnaires. LIP est une expérience autogestionnaire. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est LIP? C'est une belle entreprise capitaliste qui tourne rond. Une entreprise qui a ouvert une succursale au Canada. Hein, c'est une belle entreprise capitaliste. Bien sûr, il y a eu une expérience autogestionnaire. Et aussi... Et aussi, je vais revenir sur la gueule ouverte. La gueule ouverte que je... Non mais attends, mais c'est pour parler de l'autogestion aussi, hein, tu permets. Je veux dire, la gueule ouverte, c'est bien ici, on est tous entre gens bien pensants, on est tous d'accord sur les théories de la gueule ouverte. Moi je voudrais, peut-être, mais reparler sur son rôle absolument méprisant pour les travailleurs. Quand on voit dans un numéro de septembre à la rentrée, les patrons sont contents, les esclaves retournent au boulot. Isabelle, est-ce que t'as été débattre dans des entreprises, dans des usines, est-ce que t'as été débattre avec les travailleurs de ces problèmes? Moi je t'invite à venir chez moi et tu parleras aux gens de toutes ces théories, tu vas voir comment ça se passe.
On reste dans le débat.
Vous êtes au cœur du problème.
Tu nous parles un peu de l'autogestion et
je parle d'autogestion. Ouais. Je veux dire que l'autogestion, ça peut pas être comme se font l'espoir dans certaines communautés, moi je suis entièrement d'accord, seulement le pouvoir s'en contente, parce qu'il retire un potentiel militant, se retire du système, se retire des entreprises. Quand on a dit tout à l'heure un camarade, les scientifiques sont les complices du système, et si on est tous complices du système, on travaille dans un système capitaliste. Alors faut pas les dire, il y en a qui sont plus ou moins complices que d'autres. Je voulais dire que les gens que... Enfin, que comme toi, par exemple, vous créez une petite élite intellectuelle en fait complètement couper des masses. Je veux te dire, viens discuter dans les usines, discuter dans les entreprises. C'est tout ce que je veux dire.
On essaie de rester dans le débat pour ouvrir des polémiques, parce qu'effectivement, on peut les ouvrir, mais...
C'est faux.
Mais... Attends, le micro arrive.
On n'est même pas encore au cœur du problème.
Ouais, tiens, donné, c'est la France.
Hein ? C'est là. À l'articulation.
Vous avez devant vous un homme qui se bat à tenter d'expliquer comment on vous manipule. Il tente de vous démontrer les mécanismes de votre aliénation et au lieu de lui poser des questions précises pour savoir par quels moyens nous allons pouvoir passer en autogestion, nous nous envoyons des épithètes des uns les autres dans la tête.
Oh, Dieu, on est au courant, hein.
Allons au cœur du sujet.
Et si comment on nous manipule, on le voit tous les jours, on le voit, on n'a pas besoin d'abord.
Nous avons la poser la question, pourquoi en Espagne l'autogestion a échoué et pourquoi le fascisme est venu. Bon, c'est au cœur de la question. Ensuite, la Borie a dit tout à l'heure une chose qui se contredit avec ce que disait Maire, tant qu'on restera, tant qu'on n'aura pas transformé le système au départ, et Maire disait, lui, l'autogestion, c'est la politique d'abord. La politique d'abord, ça sous-entend les maxi-cerveaux, ça sous-entend les cerveaux musclés qui vont se pencher sur ce que vous réalisez à la base, le codifier et vous le réimposer. Bon, moi je voudrais savoir si d'abord, premièrement, l'autogestion ne consisterait pas par la généralisation de la désobéissance civile dans un sens, la non-violence, etc., par les courts-circuits économiques à la base, au niveau des quartiers, par la transformation des circuits commerciaux en circuits très courts, mais avec toujours pour objectif de passer dans une société totalement différente. Et à ce moment-là, n'y a-t-il pas un antagonisme fondamental entre les structures verticales, qu'elles soient politiques ou syndicales, et la notion d'autogestion qui doit se réaliser et qui est systématiquement coulée, comme nous l'avons vu, par Piaget à l'IP, car nous sommes allés à l'IP en discuter de l'autogestion, nous avons discuté de cette histoire de repasser la parole à la base, et on vient de parler maintenant de la base, mais la base n'était pas du tout pour la reprise des secteurs d'armement, elle n'était pas du tout pour la transformation et pour la multiplication capitaliste, elle n'était pas du tout pour ça. Je voudrais que Maire nous explique pourquoi. La politique, je termine là-dessus, si tu veux bien. Hein. Je voudrais bien savoir. Alors, écoute. Bon, alors, je me dérouge, je continue. Je le demande à la salle. Merci. Bon. Alors, je voudrais savoir que Maire m'explique pour quelles raisons les syndicats et les partis politiques nous imposent les centrales nucléaires en ne dénonçant pas les 80% de travaux inutiles et nuisibles qui nous amènent à consommer. Je voudrais également que nous profitions maintenant que le vent tourne, que des scientifiques connaissent la nuisance de leurs travaux, qu'ils commencent maintenant à nous aider, nous, à la base. Je voudrais qu'on arrive à faire, et partout, et j'en ai parlé à Isabelle déjà, il faudrait arriver à faire, d'abord un outil commun, un journal dans lequel il y aurait une page pour chacune des disciplines de lutte que nous avons amenées globalement, mais de lutte particulière à chaque niveau de la lutte. Il faut arriver à souder nos luttes, à les généraliser, mais en dehors des structures. C'est ça ce qu'il faut arriver à faire. Et là, d'abord, il peut vous répondre. Il peut vous expliquer comment vous fonctionnez. Il peut même expliquer à chacun de nous comment il ne doit pas accaparer le micro.
Justement, par la connaissance scientifique, sont-elles scientifiques de ce qu'est la femme et l'homme ? Que sont la femme et les hommes ? Et qu'est-ce que tu veux ? Je comprends très bien la question, parce que...
De deux choses, ou bien la connaissance scientifique vous enferme dans le phénomène physiologique, ça sera la connaissance biologique, la femme sera
scellée
physiologiquement, ou bien ils s'y rajouteront les constats psychologiques et sociologiques d'un rôle établi et constaté tel quel au niveau actuel de la recherche.
Mon tempérament ne fait que je ne peux pas concevoir un domaine biologique, un domaine physique, un domaine sociologique. J'essaie de réunir ces différents domaines en essayant de voir comment ils se réunissent, justement.
quelles sont les interactions qui existent entre eux. Je ne pense pas qu'on puisse que la science donne des renseignements sur la biologie ou des renseignements sur la sociologie. Il y a un ensemble. Et cet ensemble, je dis bien que c'est un mot qu'on n'aime pas, mais enfin l'homme et la femme sont complémentaires, ils ne peuvent pas faire la même chose, puisque ils ne sont pas faits de la même façon. Alors la biologie peut l'expliquer, bien sûr, la sociologie peut expliquer pourquoi on est arrivé à un système dans lequel, et l'histoire d'ailleurs, l'histoire à la lumière de la biologie, un système dans lequel la femme est le prolétariat de l'homme, mais, et pourquoi on en est arrivé là, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. D'ailleurs, personnellement, je n'ai jamais proposé de solution. Je crois que la solution, elle c'est tout le monde à la proposer. Ce que j'essaie de dire, c'est ce que j'ai appris dans ma discipline. Je pense que chacun de vous, tout à l'heure, nous parlait de ce qu'on apprend dans la praxis du travail à la chaîne, mais chacun de nous a une expérience. C'est la mienne que je vous ai apportée. Vous en voulez, vous n'en voulez pas, c'est tout. Et j'essaie non pas d'établir une dominance pour une fois. Je n'ai ni la police, ni l'armée à ma disposition. Et je crois qu'un type comme Galilée a eu beau dire « la Terre tourne », c'est pas lui qui avait le pouvoir, il était foutu en tôle. Et le pouvoir des scientifiques, c'est très joli, enfin, on me dit les scientifiques sont payés par le système, bien sûr, mais tout le monde est payé par quelqu'un. Et j'ai été content d'entendre dire que nous sommes tous dans un régime capitaliste dépendant de ce système. Et je pense que, comme l'a dit, à l'instant, je crois que c'est l'ensemble des rapports du système qui vont changer.
Différemment, c'est que finalement, la science, elle ne peut proposer qu'une explication, hein, une explication de l'état de fait des choses. Cette explication peut très facilement être employée pour une planification, hein, alors que l'autogestion, elle ne peut venir que du vécu des gens, ce que plusieurs camarades ont essayé de dire depuis le début, hein. Et la science, là-dedans, elle apporte plutôt un danger qu'autre chose, dans l'état actuel des choses, hein. Que la science pourra être manipulée vraiment par les travailleurs, vraiment par les gens qui vivent les choses, oui, mais dans l'état actuel des choses, malgré toute l'estime que je te porte, je suis obligée de te considérer un peu comme quelqu'un de dangereux, tu vois, parce que ce que tu proposes, il est accaparé d'abord par les gens qui détiennent le pouvoir. Cette explication, elle sert à mieux nous aliéner avant de nous aider à nous révolter. C'est ça que je voulais démontrer avec le problème des femmes, tu vois.
Alors que je suis d'accord avec toi, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a fait la révolution de 17 en URSS. Et certains prétendent qu'on aurait pu éviter le stalinisme, mais en fait, c'est qu'on ne l'a pas évité. Et ça, c'est la praxis, la révolution, on l'a fait.
Hein? Le verre était dans le fruit avec Lénine et Trotsky.
Bien sûr, le verre était dans le fruit, voilà une explication. Enfin, j'essaie de comprendre pourquoi le verre était dans le fruit.
Parce que historiquement, ça ne pouvait pas être vraiment.
Bon, il y a une question aussi qui a été posée à une couverture par Lorient.
C'est un sens bien précis, c'est le refus de certains risques que d'ailleurs dénonçait d'abord dès le départ de son intervention ce soir. Au 19e siècle, il y en a qui ont pensé que la science réglerait les problèmes. C'était le scientisme. On passera, disait Saint-Simon, du gouvernement des hommes à l'administration des choses, à l'auto-administration des choses. Les choses vont s'administrer elles-mêmes. Et de ce point de vue, il faut toujours être critique d'ailleurs vis-à-vis de Laborie et de ses pairs, en ce sens que tout en étant très intéressé à leur théorie de l'information, à leur théorie de la correction des systèmes vivants, etc., il faut éviter totalement cette perspective d'une société qui serait régulée par elle-même, auto-régulée, une société automatisée. Nous pensons que toute société, je le dis d'ailleurs aussi, a des conflits, inévitablement, qui sont le moteur, finalement, de l'évolution, et tout conflit, c'est la politique. Régler les conflits, choisir, c'est ça la politique, c'est à la base même de la démarche autogestionnaire, et pour ça, il faut que, bien sûr, les conditions en soient réalisées, c'est-à-dire pas seulement la fin du capitalisme comme système de propriété privée des moyens de production, mais aussi la fin de la hiérarchie, c'est-à-dire de la propriété privée du pouvoir, je le redis, parce que les hégémonies à travers le monde, c'est pas seulement, hélas, l'impérialisme américain, c'est aussi l'hégémonie soviétique. Il ne faut quand même pas l'oublier parmi les tendances lourdes contraires à une démarche autogestionnaire. Deuxième point, il me dit pourquoi les syndicats et les partis imposent des centrales nucléaires sans dénoncer la consommation.
Alors d'abord, parce que c'est pas électoraliste. Un peu facilement, les syndicats et les partis, que l'on sache, ils sont dans l'opposition, ils n'imposent pas les centrales nucléaires. La CFDT a pris position contre ce programme nucléaire gouvernemental qui permet justement pas de maîtriser son développement. Et que nous pensons qu'il faut avancer très lentement en la matière de façon à pouvoir maîtriser la technique avant de pouvoir développer l'énergie nucléaire. Bien. Ceci dit, reconnaissons en même temps que nous sommes hors d'état, je dis bien, syndicats, partis et nous tous, quels que soient nos groupes, nos organisations, de supprimer d'un jour à l'autre l'aliénation. L'aliénation, c'est le fait que chacun, aujourd'hui, souhaite absolument développer ses biens matériels. Et pour quelle raison? Fondamentalement, c'est l'exploitation. Tant que, mais je ne réponds pas seulement à toi, développe. Tant que l'on vend sa force de travail, un ouvrier qui vend sa force de travail, à l'évidence, a une attitude, je veux me faire payer ma force de travail, et je veux en voir des signes. Les signes, c'est ce que je pourrais acheter avec. J'ai vendu mon travail, donc je veux absolument, dans cette société, trouver des compensations qui seront des compensations matérielles. C'est donc cette lutte contre l'aliénation, elle passe évidemment contre le système d'exploitation. Et je dirais là aussi un mot, parce que une phrase de René Dumont, dans la lettre tout à l'heure, je crois que je dois la relever quand même. René Dumont a dit, il ne faut plus mettre en avant les revendications, ne plus mettre au premier plan les revendications matérielles. Alors à la fois il faut modifier le type de consommation et de production d'un pays comme la France, certes, mais si René Dumont, il n'est pas là, mais il aurait pu répondre, il serait sûrement d'accord avec moi, si René Dumont raisonnait à l'échelle. Si René Dumont raisonnait à l'échelle du monde, et il raisonne aussi de temps en temps à l'échelle du monde, il aurait dit qu'il faut mettre au premier plan la production massive de biens matériels pour les trois quarts.
C'est complètement faux.
Pour les trois quarts de l'humanité, aujourd'hui le problème de fond, le problème de fond à travers le monde est le problème de la faim. On en parle.
Il est le plus consommé.
Fondamentalement, le problème numéro un dans le monde entier est le problème de la faim. Le problème de la faim ne se réglera pas sans qu'il y ait.
La faim, c'est la merde qu'on a plus.
Sans qu'il y ait des moyens scientifiques et techniques tels que on puisse développer les cultures vivrières dans les zones tropicales, sans que donc il y ait un effort énorme de l'ensemble du monde pour faire que les dégâts créés par les progrès de la médecine, les dégâts, je veux dire, la démographie galopante, ne seront pas arrêtés par une quelconque planification des naissances, sauf des systèmes extrêmement autoritaires, seront arrêtés par le développement de ces pays. Le développement à la fois matériel, intellectuel, et les progrès réels de ces pays. Donc, je veux dire simplement que se débarrasser des matériels lorsque l'on vit en France, lorsque l'on a un certain niveau de vie, c'est relativement facile. Vu à l'échelle du monde aujourd'hui, il y a les 77 pays non alignés qui multiplient conférence sur conférence pour nous dire le monde va à l'impasse, il va à l'impasse s'il n'y a pas un transfert massif de ressources matérielles, parce que ça existe, des pays développés vers les pays sous-développés, sinon on va vers des famines extrêmement graves dans les années à venir. Alors je dis que ce problème existe, qu'on ne peut pas s'asseoir simplement dessus, qu'il faut à la fois modifier le mode de développement en France, réduire fortement la hiérarchie de la consommation, donc changer le type de développement, modifier les conditions de travail, allonger la durée de vie des produits, tout ceci est bien, mais aussi accorder une priorité absolue au développement des pays du tiers-monde, sans lesquels, eh bien, nos discours ne seront que des discours d'une petite élite occidentale.
Par rapport à la parole de Dumont, je pense pas que, je pense que mon père l'a mal interprété dans le cas particulier. Il dit qu'il ne s'agit plus pour eux, et mon père a compris les milieux syndicaux, hein, de mettre au premier plan leurs revendications matérielles personnelles, mais celles de l'orientation des buts, des objectifs de leur recherche. Et je pense que dans le cas particulier, elle faisait allusion aux scientifiques. Enfin, en tout cas, je crois que l'interprétation que j'en donne serait... Hein?
Je crois que Edmond Mer parle des scientifiques, puisque la phrase avant...
C'est l'interprétation de Mer que je trouve très grave. Croire encore que c'est en balançant sur l'ensemble de la planète les erreurs que nous avons faites, les modèles de développement que nous sommes c'est complètement aberrant. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est remettre en question les surconsommateurs que nous avons dans notre société. Mais s'amuser en croire, encore à croire que ce système de développement a un sens, c'est suicidaire.
Bon, je pense qu'il y a d'autres camarades qui demandent la parole. On l'a pris trois fois. Une demande de parole.
Si t'as une grande de gueule, moi aussi j'en ai une autre.
Et moi aussi.
Il y a une demande de parole. Jean-Paul, il y a une demande de parole.
Deuxièmement, on est assez grand pour parler chacun de tour. Et bon, et ça, c'est des choses simples, et c'est là qu'on commence justement à le faire. C'est pareil, c'est tout. Ceci dit, je voudrais dire que sur ce qui est des scientifiques, enfin, faire un certain nombre de remarques, que être scientifique, faut tout relativiser. C'est-à-dire que tout le monde est plus ou moins scientifique par rapport à celui qui ne connaît pas. Donc, bien sûr, vous avez les extrêmes, c'est-à-dire que vous avez un type comme la Boris, tout. Ou même avec mon verbe, enfin des ultra spécialistes, et puis vous avez le type qui a son niveau et l'agent de maîtrise par rapport à l'OS. Quoi. Or, justement, c'est cette répartition hiérarchique des sciences qu'il faut briser. Et c'est ça la base du pouvoir. Alors, comment le briser? Alors, justement, ça commence par un truc très simple, c'est qu'à notre niveau. Puisqu'ici, entre les gens qui savent et ceux qui ne savent pas, il faut déjà essayer de se comprendre, déjà par contre, une certaine méfiance, une certaine parano, pour dire qu'après tout, chacun est bien intentionné au départ. Et sinon, on va nous refaire le coup qu'on nous a fait en 68, c'est-à-dire les étudiants d'un côté, les ouvriers de l'autre. Et ça, c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. C'est-à-dire, mon élève, c'est un type, moi je considère, où il vient déjà, il est là, c'est déjà un signe de bonne phrase. Enfin, moi je le fais. Et deuxièmement, il nous donne des informations, des théories, ça, bon, c'est vachement chouette. De même, nous, à un autre niveau, bon, bah, nous, ce qu'on a appris par rapport, je sais pas si on est dans des boîtes ou dans des bugs, j'en sais rien, bon, bah, on peut le répercuter ou si tout. Peut-être sous une autre forme, à d'autres gens en dessous de nous, qui eux n'ont pas à se méfier de nous, bien sûr, en faisant l'effort de parler simplement. Et ça, c'est un truc qui n'existe pas en France. Enfin, c'est un méchant problème, ça, au niveau de casser justement ce pouvoir hiérarchique dans les scientifiques, c'est d'apprendre à parler simplement pour les intellectuels, c'est-à-dire. C'est con. Non, c'est des remarques toutes simples, c'est des remarques toutes simples, mais en fin de compte, ça tient à ça. Moi, je vois ça dans ma boîte. Bon, bah, je peux être considéré comme un intellectuel puisque j'ai des diplômes par rapport à des employés. Mais non, si je fais l'effort de parler simplement, et ça demande un effort, c'est pas du tout évident. Hein. C'est une sorte de rééducation. Mais en faisant l'effort de parler simplement, et eux, en arrêtant de dire à les intellectuels qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, enfin toutes les mythologies dégueulasses, on peut vachement avancer comme ça. Bon, ça, c'était une première remarque. Alors pourquoi je pense que ça, c'est important? Parce que justement, c'est la base du pouvoir. Et les sciences, justement, le pouvoir, les sciences sont utilisées par le pouvoir pour nous dominer. Donc nous, on doit connaître les sciences et tout ce qui se fait dans tous les domaines, y compris, je sais pas, la science de l'information ou la psychanalyse, il faut qu'on soit à la hauteur du pouvoir, ça y est pas de problème, donc faut. Et je crois que justement, la CFDT, il y a un truc très très bien, j'ai vu dans la librairie de la rue Montolon, où tous les bouquins,
il reste trois quarts d'heure,
d'accord. Ah bon, d'accord, je vais essayer d'être très bref. Disons qu'il faut qu'on soit à la hauteur.
Il y a une question aussi des camarades qui sont dehors, qui m'ont transmis, ouais. Et qui demandent de poser pour eux, puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer.
Bon, d'accord, je finis. Donc, il faut au maximum que ce pouvoir, cette science qui est répartie de haut en bas de l'échelle sociale, se répartisse dans toutes les couches de la société. Bon, et donc, ça demande un certain changement d'attitude. Seulement, attention, et c'est là que je suis plus d'accord avec mon maire, bien que syndiqué la CFDT, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège des sciences, c'est-à-dire qu'au-delà des sciences. Les sciences, c'est une forme de contrôle, en fin de compte. On commence par les sciences, puis après on contrôle technologiquement les individus. C'est comme ça que ça commençait au départ. Alors, si on tombe dans ce schéma, c'est une sorte de fascination technocratique, on risque d'oublier qu'au-delà des sciences, il y a la spontanéité de la vie des individus, et qui sont et toutes les sciences sont toujours dérisoires par rapport à n'importe quelle émotion, par rapport à n'importe quelle expression de l'individu. Enfin, c'est ça, c'est ça. Et il faut utiliser les sciences.
dans le couloir. Nous sommes derrière, on ne peut pas avoir accès à la salle. Pose cette question pour nous. Les travailleurs dans les boîtes, l'autogestion, ils la préparent tous les jours. Leur science, c'est la grève d'hier pour des meilleures conditions de travail. C'est celle d'aujourd'hui contre une hiérarchie abusive du mini-pouvoir qui leur est confié par les patrons et aussi les actions de sabotage journalière. Il faudra un peu redescendre à leur niveau de connaissance scientifique et employer les formules qu'ils connaissent. C'est une reformulation de la question posée tout à l'heure. Le camarade espagnol est le seul qui concrètement ait vécu une expérience autogestionnaire. Il est dommage qu'il n'ait pas plus souvent la parole. La question posée tout à l'heure n'était pas de demander les raisons de l'échec de l'autogestion, car il est évident que cette expérience dans sa forme était une réussite. La question est simple, les camarades ont eu affaire à une réaction de la bourgeoisie dans sa forme la plus abjecte, le fascisme. Comment les camarades ont réagi et se sont organisés par rapport à cela? Sur quelle base ont-ils combattu le fascisme et quelles explications peut-on envisager de trouver pour expliquer la défaite de la République espagnole et surtout la défaite de la région espagnole où était la plus présente expérience autogestionnaire? Il est possible que cette raison soit simplement la force militaire trop grande du fascisme,
évident.
Mais il y a peut-être d'autres au niveau organisationnel.
La lâcheté universelle en
France.
À les camarades qui ont posé la question qui sont derrière le couloir. C'est une réflexion que toute la soirée me vient à la pensée et je ne voulais pas l'exprimer parce que j'avais peur de vous offenser à vous tous. Et c'est la suivante. C'est possible que nous on aurait perdu la révolution et la guerre de toute façon, c'est possible. Mais pour moi, personnellement, je crois que la base fondamentale de l'échec de la révolution et la guerre d'Espagne, c'est la faute universelle de tous les travailleurs qui nous ont abandonnés. Aucun travailleur a fait pression dans son pays pour que chaque gouvernement, qui à l'époque était presque tout socialiste, pour que nous aide. Je ne vais pas parler. Internacionalment, la voix és el capitalisme i són una gran de façon que a Franco li manquarien. Voilà.
I tu?
Sí, sintèticament, mal impressió personal, molt sentiment, sé com sap, els treballadors internacionalment no s'han envollit de medicina, no s'han envollit de ambulancia, no saben bollé de cobertura, etcétera, me arriesgo. Hola. ¡Vamos! ¡Está con la pelea! ¡Está con la con pube, todas han de luz. Hola, ¿y tú? ¿Qué te parece con otros shows? Y ahora un juego discute, es normal. Y a la tiranía del oro.
Camarades, je suis un peu déçu par la tournure qu'a pris ce débat dès le début, parce qu'il me semble que nous sommes partis, au fond, sur un malentendu. Nous sommes partis sur une attaque très sévère de la science et des scientifiques en général. Je regrette, laissez-moi parler, c'est la moindre des choses. Nous sommes partis sur une attaque des scientifiques en général, sans préciser que Henri Laborie se plaçait vraiment en marge de ces scientifiques-là, et qu'il n'acceptait aucune gratification à laquelle aspirent en général les scientifiques, et qu'il n'était pas partie prenante du système. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'il est mal vu dans les milieux scientifiques et dans les milieux dirigeants. Ceci dit, étant donné que nous l'avons invité ici, c'est tout de même qu'il avait des éléments très importants à nous communiquer en ce qui concerne en particulier le fonctionnement de nos systèmes nerveux centraux et les théories de l'information. Que ce ne soit pas facile à faire, c'est un fait. Mais c'était pour ça qu'il était venu ici.
Et à ce sujet-là, il y a un camarade tout à l'heure qui a posé une excellente question et on n'a pas encore répondu. Mais c'est là-dessus, je crois qu'Henri Laborie peut vraiment nous apporter quelque chose de très positif en ce qui concerne l'avenir de nos structures autogestionnaires. Là, je reformule d'une façon différente cette question. Nous avons, dans les organismes vivants, et le corps humain est le plus significatif pour nous, ces organismes vivants, nous avons des niveaux de complexité différents, nous avons des niveaux d'organisation. Tous ces niveaux se complétant les uns les autres, mais ne se commandant pas, n'ayant aucun niveau n'en commande un autre, et aucun niveau n'est commandé par un autre. Ils se complètent, ce sont des structures de complémentarité, et à partir de là, je voudrais demander à Henri Laborie comment il peut, bien sûr, brièvement, et puis je sais qu'il a pensé à ça, imaginer des structures autogestionnaires qui seraient plus ou moins, non pas calquées, mais inspirées par le système de ce fonctionnement humain.
Non, je ne suis pas venu ici pour m'enseigner, Rautier. Je suis venu ici pour prendre un contact humain.
Mais je peux répondre à ta question de la place.
Je
peux répondre à la question posée à la place de Laborie.
Ça m'intéresse.
Sans aucune prétention, ni fausse modestie, évidemment. Voilà. Moi, je dis que j'ai lu ton bouquin à Nouvelle Grille, pas jusqu'à la fin.
Écoute, mon camarade, c'est bien sympa, mais je vais t'aider.
Laisse-le parler, monsieur.
Non, n'arrête plus.
Moi, ça m'intéresse.
De la Sorbonne, on en a terminé. Il faudrait qu'on perde l'habitude de faire les forums de la Sorbonne où je l'étais. Où j'en ai vu d'autres.
Ah non,
et on revoit toujours des mêmes têtes qui viennent à nous.
Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là?
Même chose, même dada.
Qu'est-ce que t'as été faire à la Sorbonne?
Si on a mis ce débat l'autre jour au niveau de l'union départementale, c'est parce qu'au niveau de la base, au niveau de notre action quotidienne, de lutte sociale, on se pose ce problème. Et on ne demande pas des réponses. On ne demande pas des formules ni des vérités.
J'ai un vécu qui est différent de l'ouvrier d'usine. Je pourrais peut-être en parler, non?
Ah bon?
Bon. J'ai un vécu de marginal, en clair. C'est comme ça qu'on nous appelle. Bon.
C'est comme ça qu'on m'appelle.
Comme Laborie, oui.
Oui, mais à notre niveau. Je ne voudrais rien que tout le monde soit marginal. On pourrait peut-être faire quelque chose de valable. Bon. Voilà. Je veux dire que par rapport à des syndicats comme la CFDT, la CGT ou partis politiques classiques, rien n'est fait pour organiser structurellement les révoltes individuelles. Moi, je suis une révoltée individuelle, à cause de famille, de sexualité, d'affectivité. C'est un créneau du capitalisme qui a failli à sa tâche, la famille. Bon, et mes parents avaient une origine aussi, bon, la science publique, etc., lumpen prolétariat, etc., etc. La filière est bonne, aussi bien dans l'oppression du capital, que dans la révolte contre le capital, tout se transmet aussi. Il y a une hérédité sociale. C'est cette hérédité contre le capital qu'il faut organiser au niveau des révoltes individuelles. Je veux dire que tous les ans, dans la jeunesse, que ce soit les classes moyennes, chez les prolos, comme on les appelle, hein, ou même chez les travailleurs immigrés, je suis d'origine prolétarienne, mon cher. Aussi bien de la grande bourgeoisie. Dans toutes les classes sociales, les jeunes se révoltent. Tous les ans, dans les classes d'âge, il y a 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 jeunes qui se révoltent, qui aboutissent à quoi? À l'hôpital psychiatrique, au suicide, au militantisme en s'attendant, après ils s'usent, ils sont intégrés. Hein le jeune Gakuren a fourni les plus grands cadres du capitalisme japonais. Et c'est pareil en France, il y a pas d'anciens de la JCR qui sont cadres moyens supérieurs au capitalisme des multinationales maintenant. Bon. Moi, ce que je veux faire, c'est, dans les îlots d'espace, oui, on peut encore s'approprier l'espace, à savoir dans les campagnes, notamment dans les campagnes, où les possibilités de produire étaient pas rentables pour le capitalisme industriel, dans les zones périphériques de montagne, etc., récupérer ces espaces, construire des bases, non plus des communautés, de 10 ou 15 personnes qui butent sur le plan affectif, etc., mais sélectionner les gens. J'entends bien le mot. Sélectionner les gens révoltés qui ont fait la démarche minimum pour aboutir de la révolte à la révolution et qui ont fait le travail sur eux-mêmes.
Je rappelle aux camarades intervenants, fort bien,
que l'organisation syndicale est une organisation collective et qu'effectivement, bon, le problème individuel n'a pas été à soulever en tant que tel, mais est toujours sous-jacent dans une organisation collective. On n'en parle toujours. Je m'excuse, mais nous avons une pratique syndicale et syndicaliste. Nous la vivons aussi, nous, tous les jours, et nous vivons aussi, nous, les problèmes individuels, tous les jours, à un autre niveau peut-être, et notre pratique syndicaliste...
Bon, tu peux laisser finir, ça m'interrompt.
Non.
Je n'ai pas fini du tout d'exposer ce que je
parle. Mais oui, on a le droit de parler quand même.
C'est vachement important, bordel, merde, ça touche des centaines de milliers de jeunes, bordel, merde alors.
Mais peut-être que ce qu'on dit et que ce que disent les autres est aussi important. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Et il est possible que tu aies la vérité, comme il est possible que tu ne l'aies pas.
Bon, je vais faire la citation pour avant de terminer. Freud a dit que si quelqu'un se démolit ses structures caractérielles, hein, le moi et le surmoi, qui fait intermédiaire entre les forces vitales de l'individu et la société, le mec arrive à la mort, soit par rapport social, soit par son propre suicide. Il ne peut pas tenir le choc, quelqu'un de libéré actuellement, ne peut pas tenir le choc face à la société. Bon, c'est la partie de tous les marginaux qui se révoltent, qui arrivent à un certain sommet et qui retombent lamentablement parce qu'ils n'ont pas les moyens matériels de vivre dans un cadre différent que celui du système et que tous les jours, ils subissent l'agression. Bon, il s'agit donc de construire des communautés de 100, 200, 300 personnes avec autant d'hectares de moyens de production artisanaux, agricoles et semi-industriels pour construire le cas dans lequel on va pouvoir détruire, en le vivant, la structure qui a été mise dans la tête, dans les fonctionnements neurophysiologiques, comme tu le dis dans ton bouquin. Moi, ces structures-là sont pratiquement détruites, mais je ne peux survivre que si je construis maintenant ces structures-là, matérielles, que je transforme mon environnement. Bon, et là, le bien de la
simplement que tu n'auras rien détruit, tu auras construit une autre structure à côté de la précédente.
Pourquoi pas ? Absolument pas ! Ce n'est pas une structure que j'aurais construit, c'est une anti-structure.
Il y a quand même quelques petites vérités premières. Il faudrait quand même rappeler quelques vérités premières. Je suis toujours admiratif, c'est ironique, des gens qui sont purs et innocents. On en trouve pas mal chez les soi-disant révolutionnaires.
Il faut bien désire le rester pur et innocent.
Il faut bien dire une chose, c'est que tout le monde est compromis, à des niveaux différents, mais on l'est tous. Je me souviens toujours d'un stage où on avait des gens qui partaient en lutte contre les flics CFDT et qui disaient fort de leur bon droit, vous les flics, n'est-ce pas, vous êtes la merde du régime, etc. Ce à quoi les flics ont répondu fort intelligemment, nous ne voyons pas. Les flics CFDT ou les flics CGT, peu importe, ils ont répondu fort, fort intelligemment, mais l'ouvrier qui construit un canon, est-ce qu'il est moins compromis que nous ?
Et qu'est-ce que fait la CGT et la CFDT contre ça ? Rien !
Je t'ai laissé parler, il ne faut pas vociférer, c'est ce qui nous sépare, je crois, c'est qu'il faut distinguer la révolte individuelle et la révolution où on donne une dimension collective à sa révolte. C'est-à-dire que si on arrête une révolte individuelle, il n'y aura que des solutions individuelles qui ne déboucheront sur rien, sinon sur...
Mais t'es malhonnête, je viens de me faire le contraire, bordel. Merde. C'est malhonnête, il n'y a pas de débat honnête avec ces gens-là, bordel, merde.
Je n'ai pas interrompu. J'enchaîne.
C'est vrai, faisons ça du sort, hein. C'est vrai que j'ai un alors.
Je reçois très bien sur le mode affectif. Il y a une demande auquel je voudrais répondre, n'est-ce pas ? Et auquel un groupe peut répondre. Je voulais ensuite dire trois petites choses qui, personnellement, me fracassent depuis très longtemps, dans le code de l'autogestion, dans lequel je pense depuis une quinzaine d'années, et auquel je n'ai pas trouvé de solution, parce que moi, je m'excuse, mais je n'ai pas de solution, je cherche. C'est le problème du parti politique, c'est-à-dire de l'élite, de l'avant-garde, et, ça c'est pour le présent, développer les différents types de lutte qui nous amènent à l'autogestion, parce qu'on peut se lancer dans l'avenir et se masturber
mais il faut assumer et définir une stratégie et assumer le moment présent. C'est pourquoi nous, les communaux du Val-de-Marne, nous avions envoyé une lettre à Edmond Maire pour lui demander pourquoi on ne pouvait pas Bierville améliorer Bierville et autogérer une certaine mesure Bierville dans le cadre de week-end, etc. Bierville, c'est le centre de formation, pardon, centre de formation de la CFDT. Pour l'avenir, je voulais aussi poser la question, parce que je n'ai pas de réponse non plus, je m'excuse encore, je n'ai pas de réponse, c'est comment on va s'articuler la participation du pouvoir, le pouvoir à la base, c'est bien ça l'autogestion, c'est casser l'antagonisme minorité-majorité, donc le conseiller voyer dissémine le pouvoir à la base, et comment ça va s'articuler avec la collectivité. Je ne tricolore pas, je ne parle pas de nation française, je m'en fous éperdument, mais je veux dire qu'il faut une coordination de toute façon. Est-ce qu'il y aura un État prolétarien et comment ça se passe? C'est une question que je me pose.
Est-ce
que tu penses de la gestion directe des entreprises et des services? La notion de service public gratuit. Non, justement, il y a une société autogérée, ce dont on a parlé. C'est un modèle, c'est autre chose. Il ne s'agit pas de passer de l'individu du biologique ou sociologique. Il s'agit de savoir comment a été la question que vous avez posée, comment en quelques millénaires, en quelques milliards d'années, la nature, par un déterminisme implacable, est arrivée à cette solution. On ne voulait pas plus longtemps, et c'est pas en quelques minutes qu'on peut le faire. Et je ne suis pas venu ici pour enseigner aujourd'hui. Alors j'écris des livres, mais ils ne lisent pas. Ça existe cette solution.
Pourquoi tu ne vis pas en collectif d'abord?
Accessible pourquoi? Comment? J'ai publié dans des collections comme 10, 18 et ID, ça vaut 450.
On les trouve plus.
En tout cas, je ne suis pas éditeur.
C'est épuisé. On pourrait peut-être faire quelque chose.
J'ai demandé qu'on réimprime. Et comme je n'avais pas suivi le même éditeur, on a dit non, ça ne sera pas réimprimé.
Voilà. Épuisé. S'il y en a un qui a poussé le
vote, il peut faire un peu
plus. Il faudrait dire les éditions pirates.
Eh oui, si vous avez vraiment une demande, faites-le, bordel. Prenez vos 40 balles, achetez au Néo, et allez-y, foncez. Le bordel, ça fera du quotidien. Une Renéo, ça coûte 3 000 francs de 30 euros. Tu peux prendre ta machine à écrire, taper des scènes et puis vas-y. Et après, t'as grave. D'ailleurs, 200 balles, c'est aussi simple que ça.
Je voudrais dire, essayez d'être un peu concret. La question du camarade est importante. Autogérer Bierville, autogérer le centre de formation de la CFDT. C'est pas la question, mais la question, c'est quel problème ça pose. Pas quel problème ça pose à la CFDT, quel problème ça pose en fait. Eh bien, ça pose le même problème que celui que les travailleurs de la sidérurgie, ils ont en face de leur outil. Il est plus difficile pour la sidérurgie. Mais en gros, les travailleurs aujourd'hui sont sur leur lieu de travail devant des machines qui sont conçues après plus d'un siècle de machinisme, de productivisme et de division du travail entre ceux qui sont et ceux qui existent. Une revendication syndicale centrale pour les années à venir, déjà maintenant, mais probablement encore plus dans les années à venir, c'est celle de la discussion des travailleurs eux-mêmes sur leur lieu de travail, de leurs conditions de travail, mais pas pour discuter des conditions de travail, pour transformer leur travail. C'est une discussion qui pose de sacrés problèmes de tous ordres, mais notamment deux, où à chaque fois, la spontanéité est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Premier problème, la transformation de l'outil. Parce que même à supposer que la gauche prenne le pouvoir dans les meilleurs délais, changer un haut fourneau et le mode de travail devant un haut fourneau, ça pose des problèmes considérables. D'abord le temps pour changer cet outil, la conception à avoir, encore une fois, le système dans lequel nous vivons, du point de vue technique, a un siècle derrière lui d'expérience, et construire des outils en fonction de la moindre pénibilité, au lieu de les construire en fonction du plus grand profit, c'est toute une autre démarche sur laquelle les recherches, la science, etc. n'est pas orientée. Donc premier problème, celui de l'outil. Et deuxième question, celui des relations dans le travail. Parce que faire fonctionner une entreprise, pour prendre ce cas, où il n'y ait plus de séparation entre ceux qui pensent, ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent, c'est tout un autre mode de pouvoir. Bien sûr, la fin de la hiérarchie tombe là aussi qui ne se résout pas avec une assemblée spontanée dans laquelle se dégagent à nouveau des leaders, des chefs, et qui n'a rien modifié fondamentalement. Donc, très concrètement, la revendication syndicale la plus simple, l'action sur les conditions de travail, pour aller au bout de ce qu'elle cherche, la transformation de l'outil, la transformation du pouvoir sur le lieu de travail, demande une expérimentation extrêmement longue, formidable. D'abord, demande d'abord, bien sûr, le préalable, les préalables de la propriété, les préalables du pouvoir politique, aux mains des représentants, des travailleurs. D'accord, mais ensuite...
Et la redéfinition des besoins, merde. Il serait quand même question qu'on sache de ce qu'on veut fabriquer avant de le fabriquer.
On ne parle pas ça de format, c'est-à-dire... Alors, je ne pas en permanence.
On ne parle pas de formation.
C'est souvent difficile que les camarades écoutent
un peu les
autres. Bon, j'ai dit là, on suppose un très long temps d'expérimentation. Et il est bien évident que des travailleurs qui discuteraient de leur travail, de leur outil et de leurs relations et un pouvoir égalitaire discuteront en même temps, ils doivent discuter en même temps du contenu, du produit du travail, de ce qu'ils fabriquent et de ce qu'ils font. Alors, parler d'autogestion de Vierville est plus simple.